Ésaïe chapitre 9 et versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Depuis la fin novembre, on peut entendre sur certaines lignes du métro parisien des annonces faites par des enfants. Vous l'avez peut-être remarqué. Hein. Pourquoi avoir changé des voix d'adultes par des voix d'enfants ? Eh bien, l'expérience au départ a été tentée à Londres, dans une station particulière, Victoria, où en moyenne, il y avait une quinzaine d'accidents liés à un escalier roulant, en moyenne par mois. Par mois, je ne précise pas par jour, heureusement. Mais pour prévenir cela, un homme qui travaillait à la station a eu une idée lorsqu'il a vu sa fille arriver à la fin de l'école, après l'école. Il a eu l'idée, pourquoi pas donner cette annonce par la voix d'un enfant plutôt que par un adulte. L'annonce était la suivante, « Prenez garde à l'escalier roulant, tenez la rampe et votre bagage. » Et quel a été le résultat? Eh bien, les accidents ont diminué de 2/3 dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Pourquoi? Eh bien, semble-t-il parce qu'il y a l'effet surprise. On ne s'attend pas à ce qu'un enfant nous parle de sécurité dans une station. On est surpris d'entendre un enfant nous prévenir. Paradoxalement, on s'est peut-être habitué à entendre ce texte à Noël, mais en l'écoutant, on devrait être surpris d'apprendre que l'espérance qu'il nous annonce est liée à la venue d'un enfant. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Les enfants, c'est un thème cher à Ésaïe. On le retrouve déjà au chapitre 7, lorsqu'un signe doit être donné au roi Achaz, incrédule, eh bien ce signe c'est un enfant. La Vierge en sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ésaïe aussi aura 2 fils à qui il doit donner des noms, chapitre 7, chapitre 8, qui ont une signification. Ici au chapitre 9, là encore, c'est un enfant qui est annoncé. Plusieurs images se succèdent dans ce texte. Et elles s'expliquent l'une l'autre. On retrouve plusieurs fois l'expression « en effet » versets 3 et 5, et on pourrait même voir les traces au verset 4. C'est une manière d'expliquer pour Ésaïe. La lumière s'explique par la victoire, qui elle-même s'explique par la venue de l'enfant Dieu. Ce sera notre plan. Une lumière, une victoire, l'enfant Dieu. Une lumière d'abord. Selon l'Encyclopédie Universalis, on trouve ce symbole de la lumière et des ténèbres partout dans le monde, dans n'importe quelle culture. Si on remonte au texte fondateur de la Genèse, il est présent dès le départ, alors que tout est chaos, on entend cette première parole de Dieu, ce premier acte créateur, que la lumière soit. Et on le retrouve dans la suite du récit de la création, cette séparation entre le jour et la nuit. Mais comment comprendre le symbolisme ici de la lumière et des ténèbres dans notre texte? Est-ce que pour les ténèbres, ça signifie l'oppression? Est-ce que c'est le mal qui nous entoure? Pour la lumière, est-ce que c'est le bien simplement ou quelque chose d'autre? Sous la plume d'Ésaïe, les ténèbres décrivent à la fois le mal dans ses causes et dans ses conséquences. À la fois dans ses causes et ses conséquences pour Judas. D'un point de vue historique, on se situe après la mort du roi Salomon. Israël a été divisé en deux royaumes, le royaume du nord, Israël, le royaume du sud, Juda. Et les deux royaumes s'enfoncent progressivement dans un marasme moral. Pour Juda, où se trouve Ésaïe, le déclin est moins rapide, mais bien réel. Bien réel. Au chapitre 5, Ésaïe dénonce différents mots qui caractérisent le peuple à son époque. Le peuple court après le profit, court après des boissons enivrantes. Il est prompt à appeler le mal bien, le bien mal. Les ténèbres, il les change en lumière et la lumière en ténèbres. C'est de cette façon qu'il illustre le mal de son temps. Les ténèbres sont donc une manière de parler du mal qui est dans ce peuple, des injustices dont ils sont responsables. Mais les ténèbres entraînent d'autres ténèbres. Plutôt que de se tourner vers la parole fiable de Dieu, ils vivent dans l'angoisse, dans la crainte, en recherche de sécurité, en pensant à leur avenir personnel. Ils consultent des médiums, cherchent à connaître l'avenir en consultant les morts. La superpuissance du moment, c'est la Syrie. Et c'est un jugement qui va tomber sur eux par l'intermédiaire de la Syrie. Cette superpuissance va venir comme un raz-de-marée envahir le royaume. Ésaïe mentionne dans les versets qui précèdent les deux tribus de Zabulon et de Nephtali, des territoires qui sont annexés par les Assyriens en 734, entre 734 et 732. Donc les ténèbres, c'est à la fois une manière de parler des causes du péché qui est dans la vie de chacun au temps d'Ésaïe, mais c'est aussi une manière de décrire le jugement qui vient, les ténèbres qui viennent. Et c'est dans ce contexte-là qu'on trouve une parole remplie d'espérance. Verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » J'ai parlé du thème universel des ténèbres et de la lumière qu'on trouve dans les religions, dans la philosophie. Mais on en trouve aussi des traces dans les romans, dans les films. Prenez par exemple la trilogie du Seigneur des Anneaux, les deux tours. Gandalf annonce à ses amis qu'il va les rejoindre avec des renforts alors qu'ils se trouvent au gouffre d'Helm. Et qu'est-ce qu'il leur promet? Attendez ma venue aux premières lueurs du cinquième jour. Alors, semble-t-il, c'est seulement dans le film, dans le livre, c'est le lendemain. Mais à l'aube, regardez à l'est, pour plus de temps avec le film. Attendez ma venue aux premières lueurs du cinquième jour. À l'aube, regardez à l'est. Et alors que le combat semble perdu, alors que les forces s'épuisent, c'est là que le cinquième jour se lève. Et c'est là qu'ils se souviennent de cette parole de Gandalf. Et qu'à l'est viennent les renforts. Dans notre texte, où viendra la lumière? Et quand viendra-t-elle? C'est dans l'évangile de Matthieu qu'on trouve l'accomplissement de cette promesse. En évoquant le début du ministère de Jésus, il cite notre verset et ceux qui précèdent. Où Jésus se trouve-t-il? Eh bien dans le nord, à Capernaum, en Galilée, dans la région autrefois envahie par les Assyriens. Et on comprend que là où même le jugement est d'abord venu, c'est là aussi où le salut viendra d'abord. Matthieu commente, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». C'est au nord qu'il faut regarder. Je ne sais pas où le nord est ici, mais c'est au nord qu'il faut regarder. Mais combien de temps est-ce qu'il va falloir attendre? 5 jours? 10 jours? 1 année? 5 années? C'est 7 siècles qu'il va falloir attendre. 7 siècles d'attente pour la réalisation de cette promesse. Et ça devrait nous faire réfléchir. Un des problèmes du peuple consiste à être focalisé sur son avenir et vivre dans la crainte et dans l'angoisse de ce qui va nous arriver sur un plan personnel, leur arrivée. Et Dieu prend 7 siècles pour accomplir cette promesse. Cette promesse, elle ne s'est pas réalisée dans leur génération. Voyez l'ironie dans la situation. Ils sont focalisés sur leur avenir personnel et Dieu va prendre 7 siècles pour réaliser sa promesse. N'est-ce pas une invitation pour nous à avoir une vision plus grande, plus globale? Quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier, il commence par non pas le pain quotidien, les tentations dont il va parler dans la prière, mais d'abord que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Concrètement, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer à nous, à notre vie? En parlant de crise sur différents plans, crise économique, la crise des gilets jaunes, crise de politique, sociale, incertitude sur le plan international, ce serait tentant de se focaliser sur nous et de penser simplement en termes de notre avenir. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et la Bible nous donne nombre d'exemples où il est légitime de prier en temps de crise, de s'adresser à Dieu et de demander qu'il intervienne pour dire nos craintes, notre angoisse, nos peurs sur un plan personnel. Mais est-ce que ce sont ces craintes, ces besoins personnels qui vont être prioritaires? Est-ce qu'on sera prêt à voir comme plus important encore les grands projets, les projets à grande échelle de Dieu? Et si nous sommes plus âgés ce matin, et je vais me mettre dans la catégorie des plus âgés aussi, c'est peut-être tentant de réagir comme Ézéchias le fera plus loin dans le livre d'Ésaïe. Comment est-ce qu'il réagit quand il entend dire que, à la suite de sa mort, sa nation, son peuple, va être déporté en exil? C'est bien. Ça ne se fera pas de mon vivant. Ça se fera par la suite. Quelle tristesse. Il est focalisé sur sa vie. Et peut-être ce serait tentant pour nous de dire, le pire est encore à venir. Ouf, je vais pas connaître cette situation-là. Mais Ésaïe nous invite à la fois à être lucides sur les ténèbres du temps présent, ténèbres à l'intérieur et à l'extérieur, lucides là-dessus, mais aussi remplis d'espérance, dans l'attente d'une glorieuse espérance. Au chapitre 11, par exemple, au-delà de ce que Matthieu a lu au chapitre 25, on trouve une autre annonce qui concerne l'avenir. Et Ésaïe parle au chapitre 11 de la terre qui sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Il y a de quoi vivre d'une espérance plus grande que simplement nos préoccupations, notre avenir sur un plan individuel. Et pour évoquer cette venue, Ésaïe parle d'une joie au verset 2. Quel genre de joie? Eh bien, il l'illustre par la joie de la moisson, la joie d'un butin qu'on partage. Et là encore, on note quelque chose qui n'est pas simplement individuel, mais collectif. La joie de la moisson, ça me fait penser à ce moment où Jésus a un entretien avec la Samaritaine à côté d'un puits. Qu'est-ce qu'elle fait quand il lui dit qu'il est le Messie? Eh bien, elle dépose sa cruche. C'est pour ça qu'elle était venue, pour chercher de l'eau, mais elle la dépose et elle court à la ville annoncée que Jésus est ce Messie annoncé. Et alors que les habitants vont venir à la rencontre de Jésus, comment est-ce que Jésus les voit? Il voit ces habitants qui viennent à lui. Voici ce qu'il dit à ses disciples. « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Comme une manière de parler de ces âmes, de ces personnes qui se tournent vers lui, qui vont avoir foi en lui. Et si on pouvait goûter à cette même joie, se réjouir de ceux qui expérimente la nouvelle naissance, s'en réjouir. Mais Ésaïe n'en reste pas là. Il entre ensuite dans l'explication de cette lumière par une victoire, dans les versets 3 à 4. Sur le site officiel des Jeux Olympiques, on trouve une vidéo sur la plus inattendue des médailles d'or. Vous savez, quoi ils font référence. Ben, en fait, il s'agit d'une finale des Jeux Olympiques d'hiver en 2002 en patinage de vitesse. 5 compétiteurs en finale. Et l'Australien, Bradbury, est derrière tout au long de la course. À la traîne, on le voit qui essaie de maintenir le rythme, mais il est derrière tout au long de la course. Et dans le dernier tour, à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, paf, les uns après les autres, les 4 qui sont devant lui s'effondrent, et en toute tranquillité, il traverse la ligne d'arrivée. La plus inattendue des victoires. Pour annoncer la victoire à venir, Ésaïe veut lui aussi parler de 2 victoires totalement inattendues, quelque chose qui paraissait invraisemblable. Verset 3, « En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire de Madian. » Dans les termes choisis, Ésaïe renvoie à 2 victoires mémorables, inattendues, celle en Égypte au temps de Moïse et celle avec Madian. L'esclavage en Égypte, l'oppression de Madian au temps de Moïse et de Gédéon. Il aurait pu en choisir d'autres, mais il a choisi celles-ci justement parce qu'elles étaient inattendues, inespérées. Dans les 2 cas, l'oppression était particulièrement pesante. Dans les 2 cas, il y avait un décalage dans les forces en présence. L'armée égyptienne, la superpuissance, avec ses chars. Et de l'autre, un peuple qui commence à marcher. 135 000 Madianites d'un côté, 300 combattants du côté de Gédéon. Mais dans les 2 cas, Dieu a opéré une délivrance, remporté la victoire. L'avenir peut sembler sombre pour Ésaïe. Et il l'a dit dès le début de son livre. Il y a de quoi déprimer en voyant l'état du peuple, son hypocrisie, le péché qui la caractérise. Mais Dieu annonce une victoire inattendue, une victoire contre les ténèbres à l'intérieur et à l'extérieur. Où est-ce qu'il faut voir l'accomplissement de cette victoire ? Ben, si la lumière vient par Jésus, la victoire vient aussi par Jésus. Quand Jésus vient, c'est pour délivrer les humains de l'esclavage au péché. Quand Jésus vient, il le dit, c'est pour lier l'homme fort, une manière de parler de Satan. Ésaïe est bien placé pour savoir qu'on ne se débarrasse pas du péché facilement. L'apôtre Paul le dira clairement, nous sommes incapables de nous délivrer de l'esclavage au péché. Mais il y aura bel et bien une victoire et une victoire dans la faiblesse. Comment est-ce que l'Épître aux Hébreux décrit la victoire de Jésus ? Écoutez comment il la décrit. « Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » C'est dans la faiblesse. La faiblesse de sa propre mort, que Jésus va remporter une victoire et nous délivrer de la mort. Désormais, Satan, l'accusateur par excellence, n'a plus de quoi accuser. Jésus a pris notre mort à notre place, rendant impuissant le diable. Et le verset 4 annonce que tout souvenir de cette lutte sera détruit, jusqu'aux chaussures des combattants, jusqu'aux habits souillés par le sang. Tous ces rappels du passé vont disparaître, un peu comme les portraits de dictateurs dans des dictatures qui sont renversés. Ils brûlent, on s'en débarrasse. Et quelqu'un, en entendant cela, dira peut-être, d'accord, c'est bien beau de parler de disparition du mal. Si Jésus a remporté une victoire contre le péché, contre le mal, comment comprendre alors tout ce qu'on voit à l'intérieur et à l'extérieur aujourd'hui ? Comment se fait-il que Satan se déchaîne encore, s'il faut parler de lui ? Il y a 2 dimanches, Paul Bourdois nous a parlé de cette promesse, tout au début de la Genèse, d'une descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Est-ce que Jésus n'a pas écrasé la tête du serpent ? Est-ce que la victoire n'est pas encore remportée ? On attend encore une pleine manifestation de cette victoire, c'est vrai. Dans l'Apocalypse de Jean reparle de cette de cette hostilité entre la femme et le serpent au chapitre 12. Sauf que cette fois-là, il ne parle pas d'un serpent, il parle d'un dragon. Comme si la bête avait pris du poids. Comme si elle rageait encore d'autant plus parce qu'elle sait qu'elle a perdu. L'affirmation du livre de l'Apocalypse, c'est que Jésus règne malgré les souffrances et les persécutions de son peuple. Et ce qu'ils doivent savoir, et ce qu'ils sauront au chapitre 20, c'est que le sort de Satan est scellé. Il sera jeté dans l'étang de feu. L'avenir de la mort est scellé. Elle sera jetée dans l'étang de feu. Autrement dit, la destruction. En entendant Ésaïe parler de cette victoire, on devrait se réjouir de cette promesse. Aujourd'hui, dans la situation présente, l'épreuve ou le péché qui nous enveloppe si facilement, on devrait se réjouir de cette victoire à venir, même si on en doute parfois. Elle paraît si lointaine, elle paraît si inaccessible, et pourtant cette victoire inattendue, elle est promise et Dieu tient toujours ses promesses. Mais qui sera l'agent de cette victoire? Ça nous amène à la dernière partie, l'enfant Dieu dans les versets 5 et 6. Le mois dernier, on s'est rendu à la mairie pour une soirée du 72 sur le thème de Martin Luther King, alors qu'était évoqué le parcours de cet homme, sa lutte. Une question revenait sans cesse au point de faire sourire tout le monde. Ceux qui étaient là, vous en souvenez, j'espère, j'imagine. Est-ce que Martin Luther King a définitivement enlevé les inégalités aux États-Unis? Et la réponse est... Il a fait des avancées importantes, mais il n'a pas enlevé toutes les inégalités, non. S'il a avancé la cause, s'il a obtenu des résultats en termes de droits civiques, s'il a inspiré plusieurs générations, si sa marche vers Washington, son discours « I have a dream » ont marqué les esprits, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est vrai pour l'égalité des droits, mais c'est aussi vrai pour d'autres combats qu'il voulait mener, comme la paix dans le monde, l'éradication de la pauvreté. Et on parle là d'un des plus célèbres, sinon le plus célèbre, prix Nobel de la paix, avec un charisme et un leadership inspirant. Qui est en mesure de garantir cette paix dont il est question ici? Quel chef d'État pourrait garantir une telle paix? Et si c'était un enfant? Si c'était un enfant? Comment un enfant pourrait-il garantir une paix sans fin? Comment pourrait-il même garantir le droit et la justice? Comment un enfant pourrait être ce souverain incontesté? Ça doit être le choc d'entendre que ce sera un enfant. L'annonce qui est faite ensuite au verset 5 va probablement nous rassurer. Pourquoi? Parce qu'il est décrit en même temps comme celui sur qui reposera la souveraineté, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un fils nous est donné, c'est une manière de dire que la royauté lui a été donnée par Dieu. Il est reconnu comme roi. Si on prenait, pour terminer, ces termes utilisés pour lui, merveilleux conseiller, dans son livre, Ésaïe ironise sur les gens qui cherchent des sécurités un peu partout, sur les conseils qu'on cherche ici à droite et à gauche, mais le roi qu'il annonce est surnommé merveilleux conseiller. Ça fait penser à ces échanges que Jésus a dans le temple alors qu'il n'a que 12 ans, et les maîtres autour de lui sont stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Il y a plus grand que Salomon en Jésus, d'où l'intérêt d'être à l'écoute de sa parole, de venir à lui. La sagesse est une chose, mais... Les bons conseils, les idées de génie, c'est bien, mais il faut les réaliser aussi. Dieu puissant, c'est le terme suivant. Pas simplement merveilleux conseiller, il est le Dieu puissant pour réaliser ses projets. On est face ici à un mystère, au mystère de l'incarnation. Il est à la fois cet enfant déposé dans une crèche que l'on doit nourrir, dont on doit prendre soin, et en même temps le Dieu puissant. Et on touche probablement ici à la raison pour laquelle Ésaïe nous parle d'un enfant, on met l'accent sur un enfant. Dieu accepte de venir dans la faiblesse comme un enfant. Père éternel, Ensuite, de manière régulière, pour comprendre l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe, on s'est tourné vers le Nouveau Testament, Jésus, mais ici, de l'entendre décrit comme Père éternel, on pourrait se demander, mais est-ce que c'est en contradiction avec ce qu'on sait de la Trinité? C'est le Fils, non? Dans la Trinité, pourquoi l'appeler Père? Alors, est-ce que c'est une confusion, une contradiction? Il faut comprendre ce terme dans le contexte de l'Ancien Testament, là où il a été rédigé. Lorsque Père est utilisé au sujet de Dieu, c'est une manière de dire que tout vient de lui, qu'il est à l'origine de tout, Père de la nation, source de l'existence, tout vient de lui. Et le Fils, dans ce sens-là, est celui donc qui est à l'origine de tout. C'est ce que Colossiens 1 nous dit, Jean 1 nous dit, Hébreux 1 nous dit. C'est tout à fait juste de dire que tout vient de lui. Cet enfant qui doit naître est en même temps l'auteur de l'existence et celui qui doit naître. Prince de la paix, la victoire qui est en vue, ce n'est pas simplement une victoire dans le sang, dans la douleur, mais une paix qui est en vue. Une paix qu'il amène, une paix qu'il instaure. Romains 5, verset 1 dira que nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela, c'est l'Éternel, le Maître de l'univers qui s'en porte garant. Comment méditer ces paroles d'Ésaïe aujourd'hui, alors que nous vivons quelques 2700 ans après Ésaïe? D'une part, c'est de constater que Dieu a accompli sa promesse, la venue d'un enfant, et de s'en réjouir, de voir dans cet enfant Dieu celui qui a accompli les promesses faites par Ésaïe, s'en réjouir, s'en émerveiller. La lumière est venue, la victoire est venue. Mais comme les premiers auditeurs, on est en même temps placé dans une attente. Les ténèbres au-dedans et à l'extérieur sont encore présentes. Nous vivons dans l'attente de celui qui est présenté comme l'enfant Dieu. Et on ne veut pas rester simplement centré sur nos vies, nos intérêts, nos craintes, mais attendre l'accomplissement des projets de Dieu. Je termine en lisant ces paroles d'Ésaïe. Chapitre 5. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que font ces hommes en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit : Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera.